Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de la Nièvre, l'émission qui vous présente les politiques du Conseil départemental. Et ce soir, nous découvrons ensemble la politique de l'habitat. Et pour en parler, je reçois Jean-Paul Fallet, conseiller départemental délégué à l'habitat et à l'économie sociale et solidaire. Et avec nous dans le studio également, Stéphane Le Breton. Et vous, vous êtes chef de projet Habitat. Bonsoir et bienvenue à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, une première question, la politique Habitat, en quoi ça consiste ?
Alors, la politique, c'est un vaste sujet, mais on va le recentrer sur l'accompagnement des Nivernaises et des Nivernais. Donc, c'est prendre en compte le mieux vivre chez soi pour les uns et les autres. Et ça, c'est aussi une réponse à des constats que l'on peut faire sur notre département, sur les difficultés qu'on peut avoir sur la qualité des logements. Ça peut être aussi des logements mal adaptés. Aujourd'hui, on est plutôt sur des recherches de petits volumes, alors qu'on est plutôt sur des grands volumes. Donc, il faut comment on adapte ces logements à cette spécificité. Et puis aussi, il faut qu'on prenne en compte la population. Donc, on est pas mal de personnes âgées avec des faibles revenus. Donc, la politique de l'habitat, c'est s'attacher à répondre un petit peu à ces trois objectifs, à ces trois constats, et de pouvoir décliner un certain nombre de réponses, de dispositifs pour aller dans ce sens, et comme je le disais, pour mieux vivre chez soi.
Donc, c'est vraiment une politique volontariste du département d'aider justement ces Nivernais et Nivernaises à être mieux logés.
Tout à fait, parce qu'il y a le constat, donc on le partage avec d'autres acteurs d'ailleurs. Par contre, effectivement, le département, et c'est pas spécifique à cette mandature, c'est un travail de longue haleine qui a été clairement identifié comme une priorité. C'est pas la priorité des priorités, mais c'est une grande priorité pour le département et la majorité actuelle, notamment, de décliner ce que j'évoquais tout à l'heure, des réponses par rapport à ce constat que nous faisons sur l'ensemble du département. Et on s'attaque notamment et on s'attache à travailler en étroite adéquation entre le soutien au logement et à l'habitat public, et notamment, je pense, au logement social, mais aussi, en l'occurrence, là, sur ce qui nous anime, sur le logement privé.
D'accord, donc ça concerne vraiment toute la partie de la population nivernaise.
Tout à fait, on est conseil départemental et on essaye de répondre aux besoins au plus près de ces dénivernés sur l'ensemble du territoire, y compris en prenant en compte cette spécificité de la ruralité qui nous amène aussi des réponses que l'on recherche innovantes, parce que faut qu'on soit en proximité, faut qu'on comprenne bien la notion des territoires et le besoin de chaque nivernais.
Je comprends bien. Alors cette politique, elle s'articule comment ?
Alors, on essaye de, et on pourra croiser avec Stéphane qui pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais on s'appuie sur des dispositifs qui nous permettent justement de répondre à cette ambition. Et notamment, on a le plan départemental de l'habitat qui est validé récemment, qui va nous emmener jusqu'en 2027 de mémoire, hein. Donc, qui a posé un certain nombre de diagnostics, d'ambitions, et aujourd'hui, on est en train de travailler à la réalisation de ces ambitions, avec notamment des dispositifs comme le programme d'intérêt général. Enfin, Stéphane va expliquer un petit peu plus dans le détail, mais voilà, notre politique s'appuie sur un cadre qui est posé, le plan départemental, avec des actions qui sont déterminantes pour répondre à cet objectif.
Alors justement, ces actions, ça concerne quoi exactement ? Ces aides ou ces améliorations ?
Alors, je voudrais préciser et compléter les propos de Jean-Paul Fallet en indiquant que ce plan départemental, il sert de conduite, de stratégie aux actions du Conseil départemental, mais c'est un document, enfin une stratégie qui a été élaborée de façon partenariale, même très large, puisqu'on a eu plus de 100 personnes qui ont participé à l'élaboration. Et donc, c'est important de rappeler qu'on travaille dans ce cadre partenarial. Donc, les constats sont partagés et les actions qu'on mène sont partagées de façon à ce qu'elles soient effectivement le plus adaptées aux besoins et qu'elles soient complémentaires entre les différents acteurs.
Donc, ça veut dire que vous travaillez avec les bailleurs sociaux, par exemple, vous travaillez avec des associations.
Voilà,
c'est les concertations.
C'est un travail qui s'articule, qui vient en complémentarité. Donc, pour le logement social, il y a les bailleurs sociaux. pour les particuliers, il y a d'autres acteurs, mais globalement, il y a l'État aussi qui reste un acteur important en la matière. Et puis, de plus en plus, les communautés de communes qui, petit à petit, prennent des compétences sur le domaine de l'habitat. Et donc, justement, on s'attache bien à intervenir de façon à ce qu'on couvre à peu près tous les champs et tous les besoins.
Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Fallet, c'est que, du coup, on s'adapte vraiment aux besoins du territoire.
Tout à fait. C'est pour ça que, comme le dit Stéphane, c'est important de pouvoir s'appuyer, de pouvoir fédérer, parce que je pense que c'est un des rôles aussi du département, c'est de fédérer à la fois les initiatives, mais aussi les acteurs. Donc on travaille de plus en plus avec les EPCI, l'ensemble des EPCI sur le département, ce qui nous fait être au plus près des Nivernais. Et ça nous permet aussi de pouvoir répondre à ces objectifs-là, hein, concernant des pôles qu'on a identifiés comme la rénovation énergétique, comme l'habitat indigne, qui est un travail qui est difficile, compliqué. Et là, le partenariat a toute sa place parce qu'on sait que le logement indigne, on ne vient pas nous voir en disant « j'ai un logement indigne ». Non, il faut creuser. Et le partenariat local de proximité, on est un peu en circuit court aussi et c'est important. Et puis le troisième volet qu'on essaye de développer aussi par rapport à cette notion territoriale, même. C'est le maintien à domicile et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'on a un certain nombre de personnes âgées. Donc c'est un peu les trois axes de développement de notre réponse sur ce chantier de l'habitat.
Donc la réhabilitation du logement, en fait, c'est ça, et puis favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, tout simplement.
Oui, tout à fait, oui. Et donc on s'appuie sur un programme qui est justement contractuel avec l'ANA, qui est un organisme de l'État, et qui permet de financer des travaux, d'accompagner aussi les particuliers dans le montage de leurs dossiers, parce que souvent on est un petit peu seul et les dispositifs ils foisonnent un petit peu dans tous les sens, et même quand on connaît un peu le sujet, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc ce que l'on a souhaité mettre en place, c'est quelque chose qui permet à la fois des financements, bon, ce qui est assez, on va dire, assez classique, mais aussi un accompagnement des particuliers qui souhaitent s'engager dans ce type de travaux avec ce qu'on appelle un opérateur, un acteur, un organisme qu'on a retenu et qui accompagne donc pas à pas les particuliers dans leurs projets.
Donc quel genre de travaux on peut faire ?
Alors, pour ce qui concerne donc le volet rénovation énergétique, c'est quelque chose qu'on retrouve assez classiquement par ailleurs. C'est tout ce qui va permettre de réduire les factures d'énergie. Donc, des travaux d'isolation, de changement éventuellement de fenêtres, de changement de chauffage et de ventilation aussi, parce que on n'y pense pas forcément, mais c'est très important. Une fois qu'on a créé une boîte hermétique, il faut ventiler l'intérieur de cette boîte. Donc c'est les grands postes de travaux pour la rénovation énergétique. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'autonomie, l'adaptation, soit au vieillissement, soit au handicap, on va retrouver assez souvent des transformations de salles de bain. Par exemple, si dans votre salle de bain vous avez une baignoire, eh bien, ça va permettre de financer la transformation en une douche. On va retrouver tout ce qui permet d'éviter les chutes dans le logement, éventuellement aussi faciliter la fermeture des volets. Enfin voilà, tout ce qui est ergonomique.
Donc des projets ambitieux, je suppose ça impacte forcément un financement important de la part du département. Vous savez à peu près combien ça coûte sur une année ou pas du tout ?
Ce qui me semble important quand on parle de financement, c'est de pouvoir aussi évoquer ce que ça génère, tous ces travaux, et le fait que les acteurs, l'ANA, le département, apportent une contribution, les EPCI apportent une contribution à ces chantiers. C'est aussi de la valeur économique sur les territoires. Aujourd'hui, on est à plus de 85% de mémoire, voire 90% d'entrepreneurs locaux qui réalisent les travaux que l'on finance. Et je crois que ça, c'est une chose qu'on évoque peu, mais qui a de l'importance sur l'ensemble du territoire. Après, par dispositif, le département vote, et on va avoir une session budgétaire dans pas longtemps, on maintient le soutien à toutes ces opérations sur des financements non négligeables. Et je crois que Stéphane, tu as peut-être des chiffres à donner plus facilement.
Oui, sur l'ensemble des travaux dont on vient de parler et de l'accompagnement donc des particuliers, le budget annuel, il est de près de 1,2 million d'euros. Et donc, effectivement, comme disait Jean-Paul Fallet à l'instant, c'est investi, c'est injecté dans l'économie locale.
Oui, donc je pense que c'est les entreprises qui sont affiliées, qui sont reconnues par le département pour effectuer ces travaux, en fait.
Alors, par rapport à certaines réglementations, il y a une, notamment, je pense à tout ce qui est autour de la rénovation énergétique, il y a des cadres où les entreprises doivent
être conformes
pour pouvoir faire des travaux. Après, ça, il reste quand même, le département n'impose pas tel ou tel entrepreneur. Il y a aussi les choix, bien évidemment, des Nivernais par rapport à des devis, par rapport à... On adapte, nous, les réponses par rapport aux documents qu'on nous présente, mais on n'influence pas. Le choix. Ce qui nous semble intéressant par rapport à cette démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des entreprises locales, parce qu'on est sur des travaux à taille humaine, et que la proximité, là encore une fois, de l'entrepreneur joue tout à fait son rôle, et ça nous va bien, nous, dans la politique que l'on souhaite mener, y compris la politique économique.
Donc des accompagnements, des aides, mais alors qui est concerné concrètement par ces aides? Parce que je suppose qu'on est soumis à un revenu fiscal minimum, maximum, comment ça se passe?
Alors en effet, la volonté du département est d'accompagner avant tout les personnes qui en ont le plus besoin. Des dispositifs d'aide, il y en a qui concernent tout le monde, mais effectivement celui qui, donc on a parlé du programme d'intérêt général, le PIG, il est surtout fait pour les personnes qui ont les plus faibles ressources et qui sont en dessous d'un seuil qui sont définis par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat. Donc comme on est en partenariat avec l'ANA, on est soumis à ce seuil-là, mais ces seuils sont pour par rapport aux revenus des Nivernais, je dirais presque assez élevé, puisqu'on estime qu'à peu près 60% des Nivernais peuvent bénéficier de ces aides, parce que 60% des Nivernais à peu près sont en dessous de ces seuils. Donc ensuite, les personnes concernées vont être accompagnées par donc l'organisme qu'on a retenu, qui s'appelle Solia, et qui va commencer à faire un diagnostic du logement et aider donc pas à pas les particuliers dans leur projet. Donc ça commence par une visite à domicile pour faire un état des lieux.
Oui, se rendre compte.
Et oui, tout à fait. Discuter avec la personne, parce que effectivement, en fonction de la façon dont on vit dans son logement, éventuellement le projet ou autre, on a aussi des besoins qui peuvent être spécifiques. Donc il va y avoir comme ça une adaptation aussi des préconisations aux souhaits et aux besoins des personnes pour arriver après un projet, on va dire, compromis, la personne va pouvoir aller avec ce projet solliciter des devis et revenir, une fois qu'elle a ce devis, auprès du technicien de Solia pour pouvoir monter le dossier de financement.
C'est là le plus dur, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que
voilà,
c'est
parce
pas
qu'il y a
forcément foisonnement
des aides.
Voilà.
Alors les techniciens sont des spécialistes, des experts de toutes ces aides et vont aller chercher, composer avec tout ce qui existe pour trouver le meilleur aménagement des aides sur le projet de rénovation qui a été prévu.
Donc ça fait quand même pas mal de dossiers, je crois que c'est à peu près presque 200 dossiers d'amélioration énergétique en 2022, ce qui est énorme.
Oui, alors on est entre 200 et 300 par an, oui, effectivement c'est quand même assez important, et puis pour l'autonomie, l'adaptation du logement, on est à une centaine de dossiers par an.
Donc un sacré chantier si je puis dire.
Oui, c'est un sacré chantier, mais au service des Nivernais, et notamment des plus précaires, des plus faibles. Donc c'est quand même une nécessité de répondre à ce besoin. Je l'évoquais tout à l'heure, je le redis, et j'invite moi les Nivernais à se renseigner. On donnera les téléphones, si vous en êtes d'accord, en fin d'interview. C'est important que les Nivernais se positionnent pour poser des questions, et on apportera, et les gens compétents apporteront des réponses. Je le disais tout à l'heure, ça a un impact sur le territoire, sur l'attractivité du territoire et le vol économique, même si, je ne voudrais pas qu'on se trompe, ce n'est pas notre compétence économique, mais il n'empêche qu'à travers des expériences et des actions de ce type, on voit bien que le conseil départemental a un impact aussi sur ce volet-là, donc c'est important de le souligner.
Donc, faut vérifier, comme on disait, son éligibilité, c'est ça, Alana. Donc là, il faut contacter Solia avec un numéro, hein, ce qui est le 03 86 36 01 51. Et puis, de toute façon, on vous redonnera aussi toutes les informations sur le site du département.
Tout à fait, oui, oui.
Où il y a aussi pas mal d'informations sur ces aides, sur les possibilités.
Oui, oui, le site du département explique effectivement les différents dispositifs et les contacts à prendre en fonction de ces dispositifs.
Donc là, il suffit de vous rendre sur www.nievre.fr et puis dans la rubrique logement, où là, vous pouvez retrouver toutes les infos. D'autres personnes à contacter si on cherche un petit peu comment on peut trouver les aides?
Oui, alors il y a un autre partenaire, donc pour les personnes qui sont au-delà des plafonds, elles peuvent être aussi aidées et accompagnées. Alors, l'accompagnement est un petit peu moins poussé que celui mis en place avec Solia, mais ce deuxième partenaire donc, s'appelle l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui se trouve aussi à Nevers. Et son numéro de téléphone, c'est le 03 86 38 22 20. Là aussi, il y a des techniciens. Alors, ça concerne que la rénovation énergétique, mais voilà, il y a des techniciens qui connaissent bien aussi le sujet et qui peuvent également donner des conseils techniques sur les travaux à réaliser si les personnes ne savent pas trop, hésitent entre faire une isolation comme ci, comme ça, ou changer de chauffage. Est-ce que ça vaut le coup de changer ma chaudière au gaz, par exemple?
Oui, pour prendre une pompe à chaleur.
Voilà, donc ils vont pouvoir répondre. Et puis répondre aussi sur les aides. Donc voilà, quand on n'est pas concerné par les aides et les ressources de l'ANA, on peut avoir ces informations-là auprès de l'Agence locale de l'énergie.
Ça, c'est surtout très important parce qu'il y a quand même quelques personnes qui se retrouvent dans ce cas-là. Et quand on commence un petit peu à regarder ce à quoi on pourrait prétendre, c'est hyper compliqué.
Oui, et puis justement, ces organismes ont un rôle lié au service public et ils ont le devoir d'être neutres, contrairement des entreprises qui forcément vont chercher à avoir des marchés. C'est logique, c'est leur métier.
Faire du commerce,
faire du commerce, voilà. Ça permet d'avoir un regard, quand on contacte ces organismes, d'avoir un regard extérieur, d'avoir une aide à la décision, ce qui n'empêche pas après le particulier d'aller voir l'entreprise qu'il veut.
De choisir celui
qu'il veut. Nos organismes conseils ne font pas le choix à la place des gens, mais par contre vont apporter un regard extérieur et analyser un petit peu tous les paramètres pour que le particulier soit vraiment bien bien informé et puisse faire ses choix en connaissance de cause.
Oui, puis un regard technique, parce que sur les moyens de chauffage, par exemple, je veux dire, c'est pas simple.
Non,
savoir quelle chaudière correspond la mieux, la pompe à chaleur, enfin, c'est compliqué.
Mais je crois que c'est ça, c'est qu'il faut, si on veut résumer, c'est l'accompagnement invité. Inviter les Nivernais à téléphoner là, sur les numéros qu'on a donnés. Après, il y a un accompagnement et c'est ce qui fait la différence un peu avec les plateformes aussi. Hein. Je crois qu'il faut aussi le dire que c'est complexe pour choisir une chaudière, pour choisir ses volets, bref. Et donc, le fait d'être accompagné, d'avoir des visites à domicile, et c'est aussi là-dessus que le département, le choix du prestataire, c'est aussi son cadre d'intervention correspond à ce qu'on souhaite pour que la personne soit mise dans les meilleures conditions pour faire des choix. Donc c'est aussi de l'aide à la décision, mais comme l'a dit Stéphane Le Breton, c'est pas nous qui faisons le choix, et c'est pas la structure qui fait le choix, elle amène la personne à faciliter sa décision sur des dossiers qui, on en est tous bien conscients, sont des fois un peu compliqués.
Donc on peut juste solliciter les Nivernaises et les Nivernais à appeler ces numéros justement pour être conseillés et aidés.
Oui, et j'ajouterais également que aujourd'hui, les dispositifs ils changent régulièrement, notamment en début de chaque année. Et pour les personnes donc qui commenceraient à réfléchir à des travaux quels qu'ils soient, c'est le bon moment pour justement commencer à démarrer son dossier, à prendre des contacts, etc., pour pouvoir passer entre guillemets dans les dispositifs qui sont en vigueur cette année en 2023.
Oui, parce ça change.
Voilà. En 2024, ça sera peut-être différent. Il y aura des évolutions. On ne sait pas de quel ordre, mais il y aura des évolutions nécessairement. Le programme mis en place par le département, lui, il court jusqu'en fin d'année. Les élus décideront ou pas de le prolonger. Mais aujourd'hui, on est sûr que jusqu'en fin d'année, c'est acté. Il y aura des dispositifs dont on vient de parler. Et comme il faut quand même, les gens qui font des travaux le savent, il faut quand même quelques mois pour le temps de se décider, de faire des devis, de faire les demandes de subventions en bonne et due forme. Donc c'est le bon moment pour démarrer.
Ça met combien de temps à peu près le traitement d'un dossier, vous savez ?
C'est très variable parce
suivant
que
les travaux.
Ça dépend des travaux. Et puis, bien souvent, ça dépend aussi du cœur, entre guillemets, que le particulier va mettre dans son dossier. Quelqu'un qui est très réactif, en 3 mois, le dossier peut être déposé. Bon, après, il y a d'autres aléas, on va dire, qui font
oui, la
que
disponibilité
parfois,
des entreprises peut durer.
Différentes choses qui peuvent. Ça peut mettre aussi 6 mois.
Oui, donc quand on s'engage vraiment sur ce genre de projet donc, et puis de solliciter les aides du département, il faut quand même dire qu'il faut être dessus, il faut quand même le travailler avec les conseillers, mais il ne faut pas laisser traîner.
Oui, ce n'est pas parce qu'il y a des conseillers que les conseillers font tout, bien sûr, chacun a sa part d'action à mener.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, Jean-Paul Fallet, pour conclure cette émission ?
Je dirais que la volonté du département, avec des perspectives qu'on ne maîtrise pas forcément encore aujourd'hui, mais notre rôle et notre envie, notre ambition, c'est de pouvoir, à partir de ces nouvelles réglementations, pouvoir adapter, nous, la politique de l'habitat, la politique volontariste qu'on disait tout à l'heure, qui est un fil conducteur depuis un certain nombre d'années, et on essaye d'être le plus cohérent possible avec l'ensemble des acteurs, parce que je crois qu'il faut insister sur ce point, c'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres et qu'on a ce rôle de fédérateur, c'est comment on réalise cette adéquation entre des nouvelles réglementations qui arrivent et puis cette volonté politique forte d'être aux côtés des Nivernais.
Eh bien voilà, comme ça on sait un peu plus sur cette politique de l'habitat qui semblait complexe mais qui peut aider bon nombre d'entre nous qui ont des problèmes d'insalubrité de logement ou qui ont simplement besoin de rénovation aussi énergétique. Surtout en ce moment, c'est pas inutile. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner donc, sur le site du département www.nievre.fr ou sinon en appelant Solia au 03 86 36 01 51. Si vous n'êtes pas éligible aux aides de l'ANA, eh bien là, vous pouvez appeler l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, au 03 86 38 22 20. Et puis pour le maintien à domicile ou au logement, contactez l'ANA au 03 86 71 70 80. Les rendez-vous de la Nièvre sont à présent terminés. Merci Jean-Paul Fallet
d'être... Merci à vous et merci à Vac FM.
Et puis au plaisir. Merci Stéphane Le Breton.
Merci.
Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée sur Vac FM. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour parler évidemment des politiques du département. Au revoir à tous.